Alors attends, moi je vais juste me servir du thé vite fait.
Bon, j'allais dire on enregistre, mais non, ça y est, c'est lancé hein, chez vous, on est d'accord.
Oh.
Boule noire.
Je veux bien la doubler.
No problem. Allez, Generac, 5, 4, 3, 2, 1.
Nipédu.
Nipédu. Nipédu. Nipédu.
Le podcast.
Le podcast.
École.
École.
Éducation.
Éducation.
Numérique.
Nipédu.
Bienvenue dans Nipédu, Nipédu, saison 11, épisode 8. Épisode 8. Et puis d'abord, merci d'écouter Nipédu, le podcast qui décode les transformations de l'école, ou pour les historiques de la famille Niptech, qui dirait plutôt qui dissèque les transformations de l'école, cher Fabien. Je sais que tu adores ce mot. Dans cet épisode, il sera question des nudges en éducation. Et moi, nudge, ça me fait penser à fudge, mais ça n'a rien à voir avec le fudge pour les connaisseurs. Coup de pouce, coup de coude, qu'est-ce que c'est que le nudge? Et plus précisément, en éducation, hein, c'est notre dada, bah, vous le saurez en écoutant cet épisode. Et cet épisode, il va se passer avec qui? Bah, ils sont là, derrière les micros, vous entendez peut-être quelques respirations. Alors, petite bio, je me lance, allez, il est à lui tout seul, un petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Est-ce qu'il en use dans ses fonctions de directeur du pôle production chez École Huma? Seuls ses collaborateurs pourraient nous le dire. En tout cas, je vous demande d'accueillir Fabien Aubard, alias... l'abominable homme des nudges.
Merci. Merci, Reg. Collaboratrice.
Ah, c'est vrai que tu es entouré de féminin. Plus discret, plus félin dans ses approches, mais tout aussi féroce dans ses joutes verbales au micro. L'est-il autant à son poste de professeur associé à la HEP du canton de Vaud? J'en suis sûr. Bah, ladies and gentlemen, please welcome Jean-Philippe Maître, la panthère des nudges.
il est en forme. Oh. Bonjour. Bon,
fallait trouver quelque chose, les gars, avec Nudge. Hein. À part les jeux de mots, je voyais pas. Hein. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Et moi, qui suis-je? Donc, Régis Forgione. Côté pro, je suis DAC, comme on dit chez nous, directeur d'atelier Canopée. Mais côté perso, je suis surtout le MC de cette émission. Et je vais tenter de faire monter les blancs en Nudge entre nos trois rubriques et l'ensemble de nos interventions. Et ben, je vous propose qu'on file vers le fun fact de la rédac.
Le fun fact de la rédac.
Fun fact, monsieur Omar.
Ça s'est passé sur France Info, Régis, dans la chronique « Aujourd'hui, c'est demain » qu'on peut entendre tous les jours. On nous présente une application Clean Trace. Alors accrochez-vous, les garçons, Clean Trace, c'est une façon de ludifier l'expérience du passage de l'aspirateur. Donc c'est une application qui va cartographier la pièce à aspirer et qui vous donne un certain nombre de points et de bonus à chaque fois que vous progressez dans les surfaces aspirées. Il est précisé dans cette chronique que ça plaira beaucoup aux adolescents et aux hommes. Je vous laisse apprécier la remarque.
Waouh, ça fait peur. Jean-Phi, ton fun fact?
Ouais, bah moi, je suis toujours un peu dans la même lignée que ces derniers mois. Là, je suis très, très immergé dans la production de nouveaux cours sur les théories de l'apprentissage un peu historiques et fondamentales pour nos futurs enseignants. Et donc, en ce moment-là, je suis dans Vygotsky et puis je me suis retrouvé face à la notion d'instrument psychologique. Et en fait, c'était marrant parce que j'avais l'impression que c'était un autre mot pour définir les nudges. C'est-à-dire, en gros, un instrument psychologique, ça peut être n'importe quoi qu'un individu dont un individu va se servir pour avoir un impact sur la manière dont fonctionne son comportement. Donc voilà, ça m'a amusé de me rendre compte, comme bien souvent, que des idées qui ont l'air très très modernes ont quand même toujours des racines bien bien plus anciennes. Voilà.
Ah, carrément. Bon, j'ai envie de dire que ces fun facts, ils fonctionnent presque comme un teaser de l'épisode. Moi, j'ai envie de dire, on a tenté de me nudger dans le verbe et dans le geste. Je vous raconte l'anecdote rapidement. On m'a demandé, tu veux monter en compétence? Et on a voulu me filer un petit travail administratif, on va dire un peu rébarbatif, voire chiant. Et ce qui m'a fait contre-nudger, vous allez l'entendre dans l'émission, c'est que, en me disant ça, on m'a touché le bras. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ça m'a électrifié. Donc, voilà le petit piège que peut être le nudge parfois, mais vous en saurez plus en écoutant cette émission dont le sommaire est chargé, Fabien.
Ouais, bah on commencera par toi, Jean-Phi. De quoi tu vas nous parler dans la FAQ du poditeur?
Je vais vous parler du good nudge, du bad nudge et de the ugly nudge. Le bon, la brute et le truand seront le nom de ma FAQ des poditeurs.
Ouais, j'allais te dire, c'est un film ça. Et toi, Régis, dans la FAQ de la rédac, en troisième partie, tu nous parleras d'un film aussi?
Bon, en tout cas, on va fondre comme nudge au soleil. Les jeux de mots sont là, vous l'avez compris. Non, on va regarder du côté de la recherche ce qu'elle dit des nudges. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Où est-ce que ça fonctionne vraiment? Et est-ce qu'il y a des parades au nudge?
Et puis moi, je vous proposerai de jouer avec les nudges. Pour être plus précis, on jouera au ni oui ni nudge et on retrouve nos rubriques habituelles avec la reco de la rédac à la fin de l'émission. Et tout de suite, Régis, la parole au poditeur.
Allez, c'est parti.
La FAQ.
Eh ben non, c'était pas le bon jingle.
J'aime.
La parole au poditeur.
Parole au poditeur de qui donc ?
Eh ben c'est Hélène qui nous a laissé un petit message en nous disant qu'elle commençait un nouveau boulot dans lequel elle va devoir se pencher sur les questions d'éducation et elle avait besoin d'une remise à niveau parce que pas du tout au fait de l'actualité du monde éducatif. Et comme c'est une grande consommatrice de podcasts puisqu'elle en écoute tous les jours lorsqu'elle fait son jogging, son footing, son running quotidien, eh ben elle est tombée sur Nipédu et elle nous a fait un retour en nous disant que l'émission était super intéressante. Merci à toi Hélène, et c'est le moment d'accélérer si tu nous écoutes.
Ouais, carrément. Allez, on file cette fois pour de vrai vers la FAQ du poditeur, si je me trompe pas de jingle.
La FAQ du poditeur.
Good nudge, bad nudge ou pas nudge?
Bon, avant de savoir le bon, la brute ou le truand, qu'est-ce que c'est que la FAQ des poditeurs? Bah, vous nous posez toutes les questions que vous avez envie, enfin pas toutes, hein. Si surtout il faut qu'elle vous taraude, qu'elle vous empêche de dormir, sinon c'est pas la peine, qu'elle soit école, éducation, numérique, formation, recherche, bref, le répondeur de Nipédu est là pour passer vos questions, enfin nous les passer, nous lancer la balle pour qu'on se lance dans une émission comme celle-ci, facile à trouver, hein. Vous tapez répondeur de Nipédu sur votre moteur de recherche préféré, vous lancez la question en quelques secondes et on est parti. Pour cet épisode, on a eu la question de Olive.
Salut Nipédu, j'espère que vous avez la patate. Ici, c'est Olive depuis l'Aglo de Grenoble. Alors, ça fait un petit moment que je me plais à dire que je mets en place des nudges dans ma classe et avec mes élèves et je trouve ça plutôt pas mal et super efficace. Et depuis quelques temps, en fait, quand je dis ça, j'ai l'impression de recevoir des réactions de plus en plus mitigées. Genre que je fais de la manipulation ou des trucs et des trucs capitalistes, quoi. Bref, je voulais faire mes recherches sur le sujet, mais je me avoue que... En fait, le temps, il me manque un petit peu, alors je me suis dit, tiens, allez, je vais coller Nipédu là-dessus. En tout cas, merci à vous pour vos réponses, et puis bah, prenez soin de vous, et à très vite.
Oh, j'adore Olive. Allez, il nous a lancé, quoi.
Alors, un très grand merci à Olive pour sa question qui nous a régalé. Déjà, nous, notre premier défi avec les garçons à la suite de la réception de la question d'Olive, c'était de savoir ce que représentait un nudge en éducation, et puis pour vous et puis pour nous aussi, de savoir déjà ce qu'était un nudge. Alors, faisons un petit peu de définition. On va essayer d'être bref, parce que finalement, c'est pas si compliqué que ça, mais on va commencer par la définition Wikipédia. Donc, le nudge, ou on pourrait dire coup de coude, ou coup de pouce, vise à inciter des individus ou l'ensemble d'un groupe humain à changer tel comportement ou à faire certains choix sans, et c'est là la chose très importante, sans les mettre sous contrainte, obligation ni menace de sanction. Alors il y a des exemples assez connus dans la littérature, enfin en tout cas des exemples qui sont vraiment très souvent présentés quand on lit quelque chose sur les nudges. Donc c'est la fameuse mouche sur l'urinoir qui fait que parce qu'on va s'amuser à viser la mouche, on va moins faire pipi à côté. C'est le cendrier dans lequel vous allez d'autant plus mettre votre mégot parce qu'on vous propose de voter à côté d'un pub pour la prochaine bière qui sera dispo à la pression. C'est la décoration sur les escaliers, par exemple, avec le nombre de calories que vous perdez par marche gravie pour éviter que vous preniez l'ascenseur. Bref, voilà, c'est ce genre de choses. En gros, les nudges, donc il y a eu énormément de littérature, surtout en économie. Enfin, il y a même eu un prix Nobel en économie pour un économiste dont le nom m'échappe maintenant, mais peut-être que les garçons, vous l'avez.
Non.
Bref, en tout cas, ça a été beaucoup développé en économie pour essayer de jouer sur les normes ou les comparaisons sociales des gens et puis faire en sorte que ça puisse les inciter à, sur des rappels un peu moraux ou sur des théories de l'engagement, enfin bref, voilà, donc ça a été tout un ensemble de trucs, et ça a glissé par ruissellement vers l'éducation, et on a commencé à parler de nudge en éducation, et donc la question a été pour nous, et là pour le coup, on s'est retrouvés tous les trois derrière des ressources qui parlaient de nudge en éducation, on s'est dit, mais... Est-ce que les exemples qui nous sont donnés en éducation sont vraiment des nudges? Et puis il y avait il n'y a pas vraiment eu besoin d'aller bien plus loin pour notre FAQ des poditeurs. Donc, les garçons, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher des exemples dans nos ressources, ou enfin dans les ressources qu'on a trouvées sur le sujet, avec des pratiques pédagogiques, et je vais vous poser la question suivante. Ces pratiques pédagogiques, good nudge, alors si c'est un good nudge, ça veut dire oui, ça vous paraît effectivement pouvoir inciter à un meilleur apprentissage, ça paraît réalisable, pas trop compliqué, et ça ne pose pas de problème éthique, parce que derrière les nudges, il y a quand même toujours cette idée, et justement, Olive nous le dit dans sa question, hein, est-ce que quand on fait ces petites choses, on fait pas un peu de manipulation de l'individu? Alors, on aura l'occasion de leur discuter, donc, good nudge, pas de problème éthique, ça peut être efficace et réalisable. Le bad nudge, celui qui vous paraîtrait soit inefficace, soit irréalisable, soit moralement discutable, soit l'un, les deux ou les trois à la fois, voilà. Ou le panudge, c'est-à-dire quelque chose dont on questionne finalement ni l'efficacité, ni l'aspect pratique ou l'éthique, mais qui ne s'agirait pas d'inciter l'individu à avoir un comportement sans obligation, sans contrainte, sans menace. Est-ce que ça vous paraît clair?
Super clair.
Ok. Alors, je vous propose... Alors, bien évidemment, donc, on a fait comme d'hab, je vous ai proposé des pratiques pédagogiques, vous avez produit des réponses, et puis, bien évidemment, j'ai favorisé les réponses où on n'est pas d'accord, parce que sinon, c'est quand même pas vraiment fun. Donc, la première, sur laquelle on était absolument pas d'accord, et qui est qualifiée dans certaines ressources que nous avons trouvées de nudge, c'est l'adaptation du contenu pédagogique en fonction des performances individuelles. Donc l'idée, c'est vous donner des exercices, et puis les élèves qui réussissent, vous les menez vers d'autres, ceux qui ont plus de difficultés, vous leur en donnez d'autres, etc., etc. Allez, je me tourne vers Fabien, ça fait un petit moment qu'on l'a pas entendu. Alors, pour toi, pas nudge, good nudge, bad nudge?
Écoute, Jean-Phi, moi j'ai eu tendance à répondre pas nudge sur cette question parce que bah, ça porte un nom, cette technique, c'est de l'adaptive learning, de l'apprentissage adaptatif. Et tu vois, j'ai pas vu en quoi on pouvait identifier un dispositif qui jouait sur un biais comportemental chez l'apprenant. Pour lui permettre de mieux apprendre. Tu vois, c'est plutôt la dimension biais comportemental que j'ai pas identifié. J'y voyais plutôt une stratégie pédagogique qui était faite de plusieurs éléments. Donc, pour moi, c'était pas du tout un nudge.
Ah ouais, intéressant. Moi, je rebondis. Tu peux rebondir tout de suite, Jean-Phi?
Bien sûr, je t'en prie.
Parce que moi, j'ai mis good nudge avec un exemple en tête dont j'ai parlé il y a pas très longtemps. C'est les pratiques d'autoréférencement en EPS où l'idée, c'est justement de ne pas se comparer aux camarades qui seraient beaucoup plus forts ou beaucoup plus faibles, mais de se mettre des performances individuelles, personnelles. Exemple, garder la même vitesse en 30 secondes auto-chronométrée. Mais ça me rappelle aussi le concours pour devenir prof des écoles il y a bien, bien longtemps, où le but, c'était d'avoir de la régularité sur un certain nombre de tours de terrain et pas de faire une perf, quoi, de la régularité par rapport à soi. Et je trouve que, bon, si aussi je parle bien de la même chose que toi, c'est-à-dire adapter le contenu en fonction des perfs individuelles, bah, j'ai l'impression que voilà, ça emmène plutôt sur des bons comportements qui évitent justement ces comparaisons qui n'ont pas raison. Moi, je me souviens, j'ai jamais été un très très grand sportif, donc par rapport à moi-même, ça va, ça me donne des bons objectifs par rapport à d'autres noms, donc je dirais good nudge à fond.
Alors moi, en ce qui me concerne, j'avais mis bad nudge parce que du coup, bah, contrairement à ce que tu dis, Fabien, moi, j'y voyais justement un espèce de jeu sur d'éventuels biais cognitifs, c'est-à-dire de résistance à la difficulté. C'est-à-dire que lorsqu'on a quelque chose qui nous paraît trop dur, on a tendance à ne pas s'y mettre. Et que quelque part, si on voit une activité et qu'on se sent en mesure de le faire, je pense que ça nous incite plus, un peu naturellement, de manière douce, à plus le faire. Par contre, moi, là où je le mettais bad nudge, c'est rigolo parce que du coup, c'est ce que tu dis, Régis. Enfin, c'est sur un point que tu mentionnes. C'est que je pense, enfin, indirectement, c'est que je pense que par contre, du coup, potentiellement, ça donne des objectifs différents aux élèves. Et là, du coup, ça m'interroge sur le fait de quelle ambition avons-nous pour justement pour nos différents élèves. Et l'idée, c'est quand même d'avoir une ambition qui est partagée pour chacune et chacun. Donc moi, ça m'interrogeait plus sur le côté un peu éthique de l'atteinte des objectifs des élèves, quoi.
Ouais, je comprends. Si je peux rebondir encore une seconde, effectivement,
bien sûr,
dans ces échanges que j'ai eus là autour de sur un autre podcast, c'est Maxime Travers qui est prof des universités en STAPS, qui lui différencie quatre profils de pratiquants, les sportifs en club, les hors club, les décrocheurs et les non-sportifs. Il dit qu'effectivement, il a la même remarque que toi, hein, Jean-Phi, c'est que effectivement, ça peut décaler les objectifs et c'est questionnant d'un point de vue éthique, mais en tout cas, ça peut emmener un certain nombre d'élèves, on va dire, sur des bons chemins de pratique en EPS. Donc, effectivement, à nuancer, mais plutôt, je reste quand même sur ma position, plutôt good nudge.
Ok, ok. On passe à une deuxième pratique ?
Allez, let's go.
Alors, deuxième pratique, toujours avec un désaccord total, les messages envoyés aux parents sur les activités scolaires et les progrès de leurs enfants. Alors, lequel de vous deux silence, les garçons ? Fabien ?
En fait, ça va s'articuler avec ce qui a été dit juste avant et la question des objectifs, parce que... on envoie des messages aux parents. Alors moi, je trouve ça, vous savez à quel point je suis attaché à la coéducation en milieu scolaire. Donc très très bien, mais je ne sais pas pourquoi quand j'ai balayé tes propositions, Jean-Phi, tes items, moi j'ai vu le côté un peu poucave, tu vois, le côté je vais te balancer à tes parents et tu vas voir, tu vas te mettre à bosser. Un truc qui semble un peu d'un autre âge, mais que je peux comprendre pour autant. Et du coup, ça pose la question de l'objectif dont il a été question juste avant. C'est-à-dire que le pédagogue qui mettra en place ce type de nudge, j'ai mis bad nudge, donc ça veut dire que quelque part, je le considère comme un nudge, c'est que, tu vois, il fait complètement fi de la motivation intrinsèque de l'apprenant et que pour lui, eh ben, tu vois, on apprend pour faire plaisir à ses parents ou pour des questions, enfin, tu vois, d'autorité. Donc, j'y vois une forme de délégation d'autorité. Si toutefois, c'était un nudge, bah, plutôt bad nudge.
Moi, j'ai mis encore good nudge. Je vais être le good cop là, dans l'émission, j'ai l'impression. Et on en reparlera en détail parce que c'est une des pratiques qui est documentée par la recherche plutôt, qui montre que ça fonctionne. Mais j'ai mis deux leviers, effectivement. Ça lève la question entre le droit et le devoir de savoir pour les parents ce qui se passe. Hein, ils ont le droit de savoir. Est-ce qu'ils ont toujours envie de savoir ? Pas forcément. Hein, c'est pas parce qu'on envoie ces messages que forcément ils en prendront connaissance. Mais je trouve que ça, j'y vois l'avantage d'induire l'intérêt envers la scolarité des élèves, ce qui est pas facile pour tout le monde. Hein, même moi, tu vois, on dit toujours que les enseignants ou les fils d'enseignants et les enseignants ont les meilleures pratiques avec leurs enfants. Oh, c'est pas forcément le cas. Moi, je suivais pas trop les devoirs et tout ça. Et je pense que ce genre de choses m'aurait amené. Hein, tu vois, dans la scolarité de ma fille, je sais pas ce qu'ils font en histoire cette année, par exemple. Alors que s'il y avait des infos comme ça, ce genre de choses, bah, ça me donnerait un peu plus envie de savoir si les notes en histoire sont pas très bonnes. Allez voir ce qu'ils font cette année. Je vois que t'as envie de réagir, Jean-Phi.
Ouais, parce qu'en fait, je me rends compte en t'écoutant que, en fait, ça dépend à qui on adresse ce nudge. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour nudger les parents ou est-ce que c'est pour nudger les élèves? Moi, j'ai noté pas nudge parce que j'ai pensé aux élèves. Et je pense que j'ai compris dans l'intervention de Fabien qu'il l'a compris pareil. Et moi, j'ai mis pas nudge parce que justement, si pour moi, t'impliques les parents, mais d'ailleurs, exactement comme le disait Fabien, dans le style un peu poucave, quoi, quelque part, là, tu mets de la contrainte. C'est-à-dire que tu mets vraiment de la contrainte sur l'enfant et de la menace. Enfin, tu vois, la menace parentale, elle est quand même pas... Donc pour moi, c'est pas du nudge parce que quelque part, il y a quelque chose de lourd pour l'enfant. Mais pour l'enfant, alors que toi, Redge, j'ai l'impression que tu le nommes good nudge parce que tu penses que c'est un nudge qui est destiné aux parents, en fait, pour l'implication des parents.
Ouais. Okay. Je le pense comme ça et j'ajouterais un point, c'est que, puisque nudge, tu disais, hein, dans la définition, c'est ne pas forcer les choses et laisser le choix, je vois un truc pervers là-dedans, c'est de se dire, bon, on va laisser le choix aux parents de dire s'ils veulent ou pas recevoir ces messages. Mais dire que tu veux pas les recevoir, tu laisserais sous-entendre que tu t'y intéresses pas, tu vois, à l'éducation des enfants. Donc, subtile nuance, quoi.
Alors là, on arrive dans les items où il y a un peu plus d'accord, c'est-à-dire qu'on est deux contre un, globalement. Alors là, il y a un combo que j'ai trouvé intéressant. Allez, c'est celui de la classe inversée ou celui de la classe en îlot. Alors, classe inversée, vous savez, c'est plutôt pendant les temps hors classe, on a le contenu, souvent sous des formes de capsules ou ce genre de trucs, et puis en classe, on travaille les exercices, et l'enseignant est là pour soutenir plutôt justement les aspects pratiques que les aspects théoriques. Classe en îlot, c'est beaucoup plus spatial, c'est voilà, l'organisation de l'espace. Ok. Alors là, on a Fabien et Régis qui sont d'accord pour dire que la classe inversée n'est pas un nudge. Alors, est-ce qu'il y en a un de nous deux qui veut bien élaborer ?
Donc moi, sur le côté classe inversée, encore une fois, hein, pour soulever les petits grains de sable, si la définition du nudge, c'est 100 mètres sous contrainte, bon, bah, finalement, quand on parle de classe inversée, on laisse pas trop le choix aux élèves. Ils font classe inversée ou ils font pas. Il faudrait leur laisser le choix. Mais je vois là derrière, et puisqu'on va venir aussi ensuite aux classes en îlot, d'une manière plus générale, l'aménagement, on va dire la forme scolaire. Hein, on peut dire que ce serait ça le côté... Le chapeau générique de forme scolaire, ça m'a fait repenser. J'ai dû rechercher pour cette émission, là, où j'avais entendu parler de ça. Loris Malaguzzi, ce pédagogue italien qui parlait du troisième enseignant, comme quoi l'environnement, même physique, hein, des élèves, c'est un peu le troisième enseignant. Bon, y a le premier enseignant de la classe, le deuxième enseignant, c'est les pairs, et le troisième, c'est l'environnement. Et avec cette question de... Quelle place on laisse à l'élève pour lui-même aménager sa forme scolaire quelque part, si je dis environnement d'une manière générale. Donc c'est pour ça que moi, le côté, en tout cas sur classe inversée, je plutôt pas nudge.
Et moi, je veux bien prendre le relais tout de suite et sauter, voire fusionner avec la question des îlots, parce que j'avais mis, alors tu vois, bizarrement pour les îlots, j'avais mis good nudge et j'avais mis pas nudge pour la classe inversée. Mais si parmi l'inventaire à la Prévert, notamment, que peut nous livrer un Étienne Bressou dans le podcast pour lequel on vous mettra les références dans les notes de l'émission et où il balance soi-disant pas mal de nudge en pédagogie qui en sont ou qui n'en sont pas et qui sont venus alimenter cette liste, bah je trouve que comme Régis, la forme scolaire, l'aménagement de l'environnement, c'est pour moi ce qui est le plus nudgé, nudgeable. Donc je rejoins Régis sur un good nudge ILO, et si tu considères que les ILO font partie du dispositif classe inversée, même ça serait, si c'était hyper réducteur de le dire comme ça, je dirais plutôt good nudge, mais classe inversée dans son ensemble, pas nudge.
Ok, ouais, c'est marrant parce que bah je crois que quelque part on a tous les trois pris un peu les mêmes parce que typiquement moi je me suis vachement reconnu dans ce que tu disais Régis, c'est-à-dire que pour moi la classe en îlot je la voyais vraiment comme une imposition, enfin tu vois quelque chose et qui du coup c'est pour ça que je l'ai qualifié plutôt de pas nudge, mais par contre c'est marrant, je le voyais moins avec la classe inversée parce que en fait t'es quand même justement dans l'idée que de toute façon dans l'enseignement il y a forcément ne serait-ce qu'un temps et un espace dans lequel tu dois te mettre pour apprendre en fait, et que j'avais l'impression que justement le fait de donner des contenus qui sont souvent les moments, enfin là en tout cas je fais peut-être parler plus de mon expérience dans le supérieur, mais tu vois quand tu parles pendant une heure et demie de théorie à des étudiants, en fait c'est pas le moment où tu les attrapes le plus quoi, et que quelque part leur donner ce contenu avec quelque chose qui peut être un peu plus ludique, un peu plus dans leur contrôle, leur redonner du contrôle par rapport à ça, bah, je trouvais que c'était un peu incitatif et de manière douce, même si en effet, au in fine, c'est quand même l'enseignant ou l'enseignante qui choisit de dire « je fais de la classe inversée », mais ouais, je trouvais que ça incitait doucement à se coller à quelque chose peut-être auquel ils n'avaient pas envie de se coller à 14h dans une amphi pendant 2h, quoi.
Et les garçons, puisque je vois que l'heure tourne et que Fabien Lamontre est en action, je vois qu'on a le choix parmi trois possibilités derrière et j'aimerais bien vous proposer le bâton de parole. Et toi, Jean-Phi, notamment, s'il devait y avoir une seule intervention, la tienne, pourquoi est-ce que le bâton de parole, comme ça on passe du supérieur à la maternelle, j'ai envie de dire presque.
Ouais, ouais, ouais.
Pourquoi pas nudge pour toi?
Bah, parce que c'est une contrainte. T'es contraint de parler seulement quand t'as le bâton. Et si tu respectes pas la règle, tu te fais, tu vois, tu peux te faire réprimander, quoi. Donc pour moi, c'est l'exemple même du truc qui est une contrainte, quoi.
Régis, toi qui l'as vu comme un good nudge?
Oui, oui, alors j'ai envie de répondre contre nudge à Jean-Phi sur est-ce que c'est pas juste question de vie en société, tu vois, c'est juste une façon de matérialiser que, bah, on parle pas tous en même temps, effectivement, si chacun parlait quand il a envie, je dis pas que tu sous-entends ça, Jean-Phi, mais je vais pousse le curseur, bon, bah, on s'entend plus parler, on échange plus pour le coup.
Je suis d'accord, mais en même temps, mais je trouve que c'est justement, c'est décaler une contrainte sur une autre. Enfin, tu vois, c'est la contrainte habituelle, c'est de lever la main ou de ce genre de truc. Et en fait, c'est juste une autre manière de matérialiser, je trouve, la même contrainte. Je trouve ça moins fin que d'autres pratiques ou exemples qu'on a donné, que ce soit en éducation ou hors éducation, quoi. Allez, à Fabien Lamonde qui nous dit que c'est l'heure. Eh ben, écoutez, les garçons, je vous remercie. En tout cas, je pense que ce qu'on peut retenir de cet échange, c'est que c'est quand même pas facile de définir précisément ce qu'est un nudge en éducation. La preuve en est qu'on en a largement débattu. Mais par contre, c'est vrai que là aussi, dans les pratiques qu'on a évoquées, il y a certainement des choses qui peuvent être bigrement intéressantes, finalement, qu'elles soient nudge ou pas nudge, hein, à réfléchir, à insérer dans les pratiques de classe. Voilà, les garçons, merci à vous.
Eh bien, écoute, je reprends le bâton de parole pour faire la transition en demandant à nos auditeurs et vous, est-ce que vous mettez en place des stratégies de nudge dans vos cours ou dans vos formations? Peut-être même sans le savoir en découvrant cette émission, hein, parce que moi, j'ai appris plein de trucs sur ce que pouvait être ou pas le nudge. Eh bien, dites-le nous où vous voulez, mais surtout sur le répondeur de Nipédu. Vous savez où le trouver. Eh bien, je vous propose qu'on file vers la chronique de Nipédu.
La chronique de Nipédu.
Ni oui, ni nudge. De la même manière qu'il existerait selon Andrew Crawford des vrais métiers et des bullshit jobs.
Des métiers à la con, quoi.
Je me suis demandé s'il existait une forme de bullshit learning que l'on pourrait opposer à une vraie bonne manière d'enseigner et donc d'apprendre. En gros, voilà comment je me suis imaginé apporter ma touche au menu que l'on voulait servir à Olive suite à sa question. Et là, co-co-co, c'est une fois de plus l'actualité qui vient frapper à mon cortex. Une triple actualité en réalité. Ça m'a d'abord fait penser à une actualité professionnelle. Avec les ingés PEDA de mon équipe, les collaboratrices dont il a été question tout à l'heure en intro de cette émission, voilà quelques semaines qu'on prend pas mal notre pied à disséquer des applications de mobile learning, comprenez apprentissage sur les smartphones, pour en explorer les spécificités.
Alors tu te souviens Fabien que c'est une émission sur les nudges en pédagogie et pas sur le micro-learning, ça on l'a déjà fait. Hein.
Et bien justement Jean-Phi, je t'invite à taper les mots-clés « nudge » en pédagogie dans ton moteur de recherche préféré et il y a de fortes chances pour que tes premiers résultats te conduisent directement vers des articles de blog, de quoi, de solutions de mobile learning. D'ailleurs, le constat que j'ai dressé après la lecture de ces quelques contenus, des contenus de marque hein, au passage faits pour promouvoir ces solutions, c'est que le nudge en pédagogie, c'est avant tout une technique de rétention de l'attention, à plus forte raison dans des environnements d'apprentissage numérique. Et là, je pense à une autre actualité. La grande actualité, celle-ci, celle de la France, avec un grand F. Oui, madame, oui, monsieur.
Toi, tu vas encore nous parler de la place des écrans, j'en suis sûr.
Ben, comment tu le sais ? Exactement, Régis. Et pourquoi je vous en parle encore et encore ? Parce que figurez-vous que le rapport commandé par le président Macron au Comité scientifique de l'éducation nationale en janvier dernier, janvier 2024, et qui devait lui être remis fin mars, a été tout bonnement repoussé à début mai. Et d'ailleurs, peut-être aura-t-il été publié à l'heure où vous écoutez cette chronique.
Alors, c'est quoi pour toi le lien entre nudge, micro-learning, écran et apprentissage, cher Fabien ?
Eh ben Jean-Phi, c'est qu'au-delà de la dimension quantitative de la compétition entre l'école et les écrans liés au temps d'exposition à ces mêmes écrans, au-delà de la question des usages ou des mésusages des écrans, la bataille de l'attention se joue aussi sur l'évolution des standards de la mise à disposition de l'information. Et donc, des habitudes qui s'installent à force d'exposition à ces mêmes standards. Pensez les garçons aux mécaniques utilisées par les réseaux sociaux, par YouTube, par toutes les plateformes de streaming. C'est pas seulement l'attention, mais bien la qualité de l'engagement cognitif tout entier qui se voit modifié.
Ok, donc ça fait deux. Et la troisième actu dont tu voulais nous parler ?
Bah, en fait, les gars, c'est mon actualité perso qui boucle en réalité avec l'actualité pro et le propos de cette chronique. Laissez-moi vous raconter mon histoire compliquée avec Duolingo. Je sais, évoquer Duolingo dans un podcast qui parle école et numérique en 2024, on est bien loin du scoop. N'empêche que cette application reste pour moi un banger en matière de mobile learning, ou pour le dire autrement, ce qu'on fait à la fois de meilleur et de pire dans l'engagement d'un utilisateur en ligne.
Alors, tu nous expliques ?
Oui, Jean-Phi, ça fait des années que je veux me mettre à l'allemand pour pouvoir enfin converser tous les soirs avec Régis dans cette belle langue de Goethe. Mon exploration du monde merveilleux du mobile learning m'a donné l'occasion de faire d'une pierre deux coups, ou plutôt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Et voilà que moi, qui refuse la servitude volontaire version 6 pouces, servitude dans laquelle les smartphones sont en train d'enfermer l'humanité, je me retrouve tous les soirs à 22h30 pétante à compléter une putain d'unité d'apprentissage sur Duolingo, parce que sinon, vous comprenez les garçons, je vais rétrograder de division, briser ma série de 28 jours consécutifs ou perdre ma place au classement des apprenants. Et n'allez pas croire que la compétition ou la ludicisation sont les seuls coups de pouce utilisés par la perverse perruche qui sert de mascotte à l'application pour me ramener inlassablement vers mes apprentissages. Storytelling, humanisation et personnalisation, ambiançage, neutralisation des irritants dans l'interface comme dans l'expérience utilisateur, mise en activité rapide. Je vois clair dans ton jeu, Duolingo. Je sais à quel point et comment tu parviens à mêler expérience utilisateur, expérience apprenant et expérience client pour me faire apprendre chaque soir et accessoirement me faire passer à la caisse pour ça. J'y vois clair et pourtant, force est de constater que ça marche.
Alors en gros, tu invites toutes et tous les collègues enseignants et formateurs à s'inspirer des fameux coups de pouce du mobile learning pour engager leurs apprenants, c'est ça, c'est QFD ?
Bah, je t'aurais volontiers dit oui si tu inclus à la catégorie des enseignants et des formateurs dont tu parles la grande famille des ingénieurs pédagogiques et notamment des ingénieurs pédagogiques multimédia. Le micro-learning, comme le mobile learning, sont nés des cendres encore fumantes des MOOC et du constat cruel qu'on n'engage pas un apprenant en ligne comme on l'engagerait loin des écrans. Dans le podcast que j'ai déjà mentionné, Étienne Bressoux affirme qu'il y a plein de profs qui utilisent des nudges sans le savoir. Et moi, je changerais volontiers la manière de voir les choses. Si le nudge est cette technique qui vise à aider un apprenant à passer de l'intention à l'acte en aménageant l'environnement, la pédagogie, elle, serait plutôt la manière dont un enseignant ou un formateur transforme l'acte d'apprendre en désir d'apprendre à l'aide de nudge, sûrement, mais pas que. Et si le nudge vise à changer les comportements des individus, l'école toute entière et tout type de formation digne de ce nom devrait viser à transformer le rapport de l'apprenant à l'objet d'apprentissage pour que ce même objet ou acte d'apprendre transforme à son tour l'apprenant. Et si les nudges sont à l'apprentissage ce que les nuggets de poulet sont à la gastronomie, j'invite avant tout, pour répondre à ta question Olive, les collègues enseignants ou formateurs à imaginer comment transformer leur cours ou leur session de formation en dîner 3 étoiles.
Oh là là. Alors moi j'ai envie de filer l'analogie culinaire et vous dire, allez, partons nous régaler avec la FAQ de la rédac.
La FAQ de la rédac.
Fondre comme nudge au soleil. Alors, à ce stade de l'émission, on a vu des exemples de nudge en éducation avec Jean-Phi dans la FAQ des poditeurs. Fabien vient de nous partager ses expériences de nudgeur et de nudger avec les questions et les malaises que ça peut lui susciter, les questions existentielles même, allemandes. Je vous propose de voir un petit peu dans cette FAQ de la rédac ce que dit la recherche sur les nudges en éducation. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'il y a des effets pervers? Est-ce qu'on peut les contrecarrer? Mais d'abord, un rapide passage par les origines, hein, même si Jean-Phi, on a dit des choses dans la première partie d'émission. Moi, j'ai pris quelques articles de recherche. On les citera dans la suite, mais vous les retrouverez dans les notes de l'émission. Je suis allé voir un petit peu les origines. Donc, le nudge, c'est une notion issue des sciences comportementales. Elle a été popularisée. C'était peut-être lui le prix Nobel dont tu parlais, Jean-Phi. Je sais pas, tu nous diras.
Ouais, c'est lui. Ouais.
L'économiste Richard Thaler et un juriste, Carr R. Sustein, dans leur livre Nudge Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness. J'aurais dû traduire en français, mais vous aurez compris. Donc l'idée, c'est d'influencer les décisions des individus de manière subtile. On l'a vu dans la première partie de l'émission aussi. Et leur idée, c'était surtout de renouveler la conception des politiques publiques en se disant que l'homme n'est pas rationnel. En tout cas, c'est pas un animal aussi rationnel qu'on aime à penser. Et pour redonner un exemple dont il parle, hein, il parle pas en école, mais il parle en entreprise. C'est un exemple qu'ils prennent souvent. Si on a envie que les gens mangent sainement, moi je prends l'exemple des élèves, que les élèves mangent plus sainement, il suffirait de mettre le bar à salade plus près de l'entrée que les frites et les plats en sauce, et puis quand on arrive devant, on se sert plus en salade qu'en frites. C'est un exemple assez classique qui a l'air de fonctionner. Cela étant dit, si le nudge, c'est ce fameux coup de coude, coup de pouce discret qui permet de diriger quelqu'un sans ordre ni menace, de manière douce, est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite forme de manipulation, les gars? J'aimerais qu'on entre par ça, peut-être par Fabien.
Eh bien, écoute, moi aussi, je vais être dans la manipulation parce que je vais reprendre ce sur quoi on s'était laissé sur la FAQ des poditeurs avec cette question du bâton de parole. Pourquoi est-ce que le bâton de parole, pour moi, c'est le nudge scolaire par excellence? Parce que c'est une manipulation éclairée. En fait, on comprend comment le dispositif il conditionne les comportements. Comment est-ce qu'on fait passer de l'intention à l'acte les gens qui sont là, c'est-à-dire parler chacun son tour, mais elle est éclairée parce que je trouve que, en fait, le contrat, il est facilement compréhensible par tout le monde. C'est-à-dire qu'on sait que ça va être compliqué de pouvoir débattre sereinement sans se marcher sur les pieds. Donc, on introduit ce bâton de parole et le nudge aura réussi quand on l'aura complètement abandonné parce qu'on aura construit ensemble cet apprentissage à être capable de débattre en parlant chacun son tour et pas en brisant la parole, tu vois. Donc moi, je pense que manipulation éclairée, il devrait y avoir dans chaque nudge une dimension éthique dans laquelle tu associes en fait les nudgés au dispositif et que tout le monde sait pourquoi le truc est mis en place. Et je trouve que le bâton de parole, c'est un exemple parfait.
Jean-Phi ?
En écoutant Fabien et la réponse que j'ai, et en ayant en tête la réponse que j'avais préparée, en fait, je crois que cette idée, à la fois, je vois ce que tu veux dire, Fabien, et je crois que je suis assez d'accord sur cette idée de dire que la manipulation, elle peut potentiellement être éclairée. Mais je crois que justement, c'est-à-dire que à force que tu vas user de ce nudge, mettons le bâton de parole ou un autre, je pense que justement, et il y a pas mal d'études qui montrent ça, c'est que je pense qu'en fait, notre conscience, elle disparaît un peu là-dessus. C'est-à-dire que même si à un moment, tu peux prendre conscience des mécanismes qui sont là et tu peux rendre cette manipulation un peu éclairée, on a quand même une tendance, et le fonctionnement de l'esprit est celui-ci, de finir par, d'une manière ou d'une autre, quand même maintenir une forme d'inconscience de nos stratégies et des choses qui marchent, des choses qui marchent pas sur nous, tu vois. Et donc là, notamment dans les notes de l'émission, vous trouverez un certain nombre d'études, moi, que je trouve absolument géniales. Tu vois, par exemple, sur des stratégies d'apprentissage, donc là, c'est plutôt là aussi chez des adultes ou enfin des étudiants, où on leur fait comparer, tu vois, genre, entre la prise de notes, le surlignage, les mind maps, tous ces trucs-là qui sont, tu vois, qui sont vraiment légion dans les pratiques des étudiants. Tous les étudiants et étudiantes vont te dire que c'est ce qui marche, que c'est ce qu'ils font, c'est ce qui est efficace. Et puis en fait, quand tu fais d'autres stratégies, alors je vais pas rentrer dans le détail des stratégies, mais plutôt de l'espacement, tu manipules vraiment l'espacement entre lequel tu vas prendre un cours, lire tes notes, etc. Et en fait, on voit que c'est beaucoup plus efficace que toutes ces stratégies-là. Et ce qui est vraiment absolument génial, c'est que il y a des gens... C'est-à-dire que ils vont te dire « Ah ouais, ok, je veux bien entendre que pour d'autres personnes, c'est ça qui marche le mieux, mais pas pour moi. » Alors qu'en fait, quand tu regardes le résultat, ça a mieux marché pour eux aussi, tu vois. Et cette inconscience de nos fonctionnements, et etc., je pense que c'est un espèce d'état un peu par défaut qu'on a, et que, pour en revenir à ce que tu disais sur la manipulation éclairée, bah, je pense qu'au bout d'un moment, tu te rendras plus compte en fait que le nudge, il te manipule parce que on en revient sur tous les travaux sur les biais cognitifs et tout ça. Et du coup, la question éthique, je trouve qu'elle est, elle est pas facile, justement quand tu la lis à cette propension que notre esprit a de ne pas avoir conscience de la manière dont il fonctionne, quoi.
Deux points pour éclairer ce que vous avez dit tous les deux, hein, que j'ai trouvé dans une recherche là, que vous retrouvez dans les notes de l'émission de Damgard et Nielsen, Nudging in Education. Sur l'efficacité des nudges, pour qu'ils soient efficaces, en tout cas, il faut effectivement bien comprendre les mécanismes cognitifs des différents publics auxquels on va essayer de les appliquer effectivement pour qu'ils gardent un contrôle d'eux-mêmes quelque part. Et en disant que c'est efficace surtout quand c'est ciblé sur des individus les plus affectés par les barrières comportementales et tout ce qui pourrait les limiter. Donc je trouvais que cette double vision-là, elle était particulièrement intéressante et elle résonnait avec ce que vous disiez tous les deux. Mais j'aimerais vous amener sur le terrain, cela étant dit, du « est-ce que ça marche vraiment ?» Il y a un autre article là, qu'on a regardé de Pugach et Wilson, « Nudging Study Habits », une expérimentation en fait universitaire sur le tutorat. Pour vous expliciter un petit peu le modèle expérimental, c'est une expérience contrôlée aléatoirement où on envoyait des messages pour promouvoir le tutorat, avec différents types de messages qui étaient testés pour voir comment ils influençaient ces sessions de tutorat. Des messages de cadrage positif de la norme sociale, voilà, on présente le tutorat comme une activité courante parmi tous les étudiants qui réussissent, voilà. Des incitations financières, mais modestes. On offrait des petites récompenses financières pour ceux qui participaient à ces sessions de tutorat. Et puis des infos plutôt neutres. On donnait des détails sur les horaires du tutorat, comment que ça se passait, où ça se passait. Et si je vous donne les deux grandes conclusions de manière très, très, très brève. Déjà, la première, c'est aucun effet notable sur les notes. Mais les sessions indiquent que les étudiants, ils ont apprécié ce service de tutorat. Et l'article il conclut en disant que ça coûte pas grand-chose finalement ces messages, quelle que soit la forme qu'on leur donne, le résultat est le même, hein, il n'y a pas d'effet sur les notes, mais les élèves ils s'intéressent plus à ces sessions de tutorat et ils y participent plus. Donc là on est dans un cas typique de nudge à faible coût, c'est comme ça qu'ils le présentent, qui change significativement les comportements. Donc sur cet exemple et peut-être d'autres hein, que vous avez en tête, il y a des effets avérés, mais rien au final sur le résultat, sur les notes. Alors, si je devais être avoir l'esprit chagrin, je vous dirais à quoi bon ces nudges finalement ?
Bah, moi, je dirais que la question que tu poses sur les nudges et les résultats que tu nous présentes, ils renvoient globalement à ce que pourrait être une démarche qualité en pédagogie. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Alors, la démarche qualité, moi, je la modélise avec un triangle. Je me souviens d'une émission où j'étais dit, Régis, ne nous fais pas faire des modélisations mentales, ça ne marche pas. Donc, tu vois, comme j'ai changé d'avis, imaginez un triangle avec... un côté qui représente les coûts, un autre qui représente les délais de production et un autre la qualité, donc l'impact, les résultats. Et en fait, les curseurs vont bouger sur chacun des côtés de manière un petit peu dynamique et mécanique. Moi, j'ai envie de dire, c'est si ça te coûte pas grand-chose, que ça te fait plaisir, que tu veux tester, que il y a des bénéfices collatéraux, on part du principe optimiste qu'il y aura des bénéfices collatéraux ou en tout cas des bénéfices non anticipés, bah... Allez-y, faites-vous plaisir et mettez en place des nudges en pédagogie. Ceci étant dit, dans le point que tu précises où les étudiants sont montrés finalement principalement réactifs à la science de l'existence du service de tutorat, c'est qu'il y a eu une explicitation. Donc, je continue à dire que les nudges, oui, et je reviens sur mon côté manipulation éclairée, ou en tout cas le contrat entre le nudger et le nudgé, et de dire qu'on est bien dans un dispositif d'apprentissage et tout ce que je mets en place, ce sont des tentatives de rendre plus efficace le dispositif d'enseignement que je vous propose.
Ça te convainc, ça, Jean-Phi ?
Non mais il lâche rien. non mais blague à part, ce à quoi ça me fait penser, c'est que ouais, puis en plus ça fait plusieurs émissions là qu'on a en tout cas cette saison. Je pense à l'émission sur les avatars ou sur les pédagogies queer notamment, où en fait la question c'est pas tout le temps l'efficacité sur les apprentissages. Et en ce sens, je rejoins complètement Fabien sur le fait que bah voilà, si ça fait plaisir, si ça peut avoir un impact sur l'ambiance, sur le bien-être des acteurs, enfin et des actrices, enfin voilà. Et si c'est peu coûteux en plus, pourquoi s'en priver ? Par contre, là où j'ajouterais moi une vigilance, c'est cette idée de dire que attention à ce qu'on nous vend, quoi. C'est-à-dire que ok, ça peut coûter, ça peut avoir des effets bénéfiques sur la manière dont se déroule la situation d'enseignement, mais par contre, à ce moment-là, questionnons le fait qu'on nous les vende comme quelque chose qui a un effet bénéfique sur les apprentissages. C'est toujours ça, quoi. C'est-à-dire que voilà, il faut être vigilant. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même, alors même si Régis, tu as fait un sacré boulot pour trouver un certain nombre de ressources qui s'intéressent à ça, quand on voit déjà la difficulté qu'on a quand même à définir ce qu'est un nudge en éducation, c'est-à-dire quelles sont les pratiques qui en sont pas, et puis que après on en vient à voir que bah parfois il y a des trucs qu'on appelle nudge qui n'ont pas d'effet sur les apprentissages. Voilà, n'allons pas nous vendre que c'est si évident que ça, que les nudges c'est forcément positif pour les apprentissages, même si ça peut avoir d'autres effets positifs dans les situations éducatives.
Ouais, et pour vous amener en forme de transition hein, sur la troisième sous-question que j'ai envie de vous soumettre, on parle d'effets sur les élèves. C'est vrai que la plupart des choses qu'on a trouvées dans ces articles, notamment dans Nudging in Education, on n'est pas tant sur les résultats, sur la pédagogie, que augmenter le taux d'inscription à l'université en envoyant des messages, ce genre de choses-là, éclairer les parents sur certaines pratiques, et on est moins dans la granularité, on va dire, de l'apprentissage en classe et des résultats là-dessus. Moi, je vous emmène sur les effets pervers, les contre-nudges. Et cette idée que même si, bon ben on est bien d'accord, hein, on parle pas de manipulation, c'est bien intentionné, c'est bienveillant, mais effet pervers et effet négatif, on a survolé quelques-uns selon vous. Allez Fabien, je vois tu vas parler de sorcières peut-être.
Bah, j'ai envie de te dire, c'est toujours la question de faut-il ou ne faut-il pas jouer aux apprentis sorciers, sorcières, quand on nous confie une baguette magique pédagogique. Et dans un des articles que tu nous as mis entre les mains, Régis, il est question d'une compréhension insuffisante qu'on peut avoir sur les mécanismes comportementaux. Donc là, le nudge à la manière des intelligences multiples, ça semble être quelque chose d'assez simple à comprendre, mais pour autant, s'il y a des sciences comportementales et que c'est un domaine de recherche en soi, c'est que on fait ou on ne fait pas n'importe quoi. Donc moi, c'est plutôt ça que je voulais vous livrer par rapport à cette question.
Et toi, Jean-Phi, sur ces potentiels effets pervers ?
Bah, en fait, moi, j'ai envie de te dire, j'ai envie de dire à ce sujet-là ce qu'on dit et ce qu'on répète à de multiples reprises sur de multiples sujets. C'est pas tant l'objet nudge en tant que tel que la manière dont il va être mis en place. parce qu'en fait tu pourrais avoir sur le papier quelque chose où on serait tous les trois par exemple d'accord sur le fait que c'est un good nudge, et puis le fait dans la manière dont ça va être mis en place par tel enseignant ou tel autre, et ben voilà, de toute façon en éducation comme dans beaucoup d'autres choses, l'enfer est toujours dans les détails et pavé des meilleures intentions. Donc je sais pas si c'est le principe même du nudge que je questionne, que le fait que entre la recette et puis le plat qui sort du four, il y a toujours un hiatus, quoi. Voilà. Donc moi c'est plus là-dedans que il y a une forme de crainte que dans la manipulation, mais pas au sens de manipulation cognitive, mais dans la manipulation du scénario pédagogique qu'on pourrait faire avec un nudge, il puisse y avoir des effets un peu inattendus, secondaires, et éventuellement pervers ou négatifs. Ouais.
On en a évoqué quelques-uns, hein. On parlait, c'était Fabien tout à l'heure, de faire une éviction finalement de la motivation intrinsèque en nudgeant. Moi j'ai parlé de contre-nudge dès le début d'émission, où il y a parfois des alarmes comme ça, hein, on va dire que dans certains cadres de travail, quand on vous parle de monter en compétences, des fois c'est juste pour vous filer un coup de travail, un coup de boost de travail en plus, ça doit flasher comme des warnings. Mais il y en a eu d'autres, hein, dans ce fameux article sur le nudging en éducation. Moi j'ai vu certains effets négatifs non anticipés quand ces nudges qu'on essaie de mettre en place, ils sont pas bien ciblés sur le public auquel ils s'adressent, ou peut-être leur mettre une espèce de forme de pression excessive, même si on a l'impression que ce sont des méthodes douces. On parlait par exemple d'envoyer des messages SMS ou ce genre de choses aux parents ou aux élèves. Donc effectivement, à manipuler parfois avec précaution. Mais on vous encourage, si vous n'avez pas d'autres mots à rajouter, les garçons, j'encourage nos auditeurs à aller lire toutes les ressources dans les notes de l'émission, et pour nous filer en transition pour vous dire, est-ce que vous, au sortir de cette émission, vous en savez plus sur les nudges? J'espère, en tout cas ça sert à ça. Est-ce que cette idée de nudge en éducation, ça vous convainc, ou est-ce que vous y voyez peut-être, comme les collègues d'Olive, une méga escroquerie capitalistique? Dites-le nous encore une fois dans les notes de l'émission, et pour le coup nous on file vers la reco de la rédac.
La reco de la rédac.
Ta reco de la rédac, on commence par toi, Jean-Fils, si tu veux bien.
Allez. Alors, j'ai dû me creuser le cerveau pour la trouver, celle-ci. Mais alors, quand je l'ai trouvée, j'étais plutôt fier. En fait, il y a quelques mois, j'ai vu un pote que je vois pas très souvent, mais en plus, ouais, c'était déjà à l'automne. Et on a souvent l'habitude de se mettre à parler musique au bout d'un temps. Puis on se retrouve tous les deux avec nos téléphones dans les mains à balayer dans nos applis musicales pour essayer de trouver les recos qu'on peut se faire l'un l'autre. Et puis il me balance un truc, j'aime bien la pochette, je trouve ça cool et tout. Puis voilà, mais il m'en balance 10, donc quand est-ce que je vais écouter cette reco, c'est pas tout de suite, quoi. Et puis je mets un certain temps, et puis un jour je suis en train de bosser, puis je vais cliquer dessus. Je clique, et puis alors la première chanson tombe pas du tout dans l'ambiance de la musique dont j'avais envie à ce moment-là. Donc et cette petite expérience fait que je délaie encore beaucoup, beaucoup plus l'écoute. Et puis un jour, il s'avère que je vois une grosse news sur Le Monde, que cet album et cette personne a gagné 4 victoires de la musique. Et oui, donc je parle bien de Zao de Sagazan.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs.
Le fait qu'elle émerge comme ça dans mon fil de news, alors non seulement c'est une partie du nudge, mais c'est pas tout le nudge, c'est qu'en fait j'étais hyper surpris, parce que ce gars-là, ce pote, a plutôt des goûts de musique assez alternatifs, donc j'étais assez surpris qu'il m'ait recommandé quelque chose qui arrive dans des news tout à fait mainstream, quoi. Et donc ça a fait double nudge, et instantanément, je m'en rappelle très bien, j'ai allumé Deezer et j'ai cliqué sur play en me disant, bon, il faut que j'aille écouter, parce que du coup, voilà, donc j'avais ce truc qui était là depuis hyper longtemps, que j'avais envie d'écouter parce que ça m'avait été recommandé par quelqu'un avec qui je sais que j'ai des goûts musicaux communs, et puis ça s'est pas fait, et puis il y a eu un espèce d'enchaînement de trucs qui a fait que instantanément, ça m'a nudgé pour aller l'écouter, j'ai un avis réservé, enfin, c'est-à-dire que je sais pas comment dire. En fait, j'adore cet album, mais je sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs où ça, là aussi, ça serait pas immédiatement dans mes goûts, mais je dois lui reconnaître un certain talent, ça c'est sûr. Et au bout du compte, il y a quand même certaines chansons qui sont arrivées dans mes playlists favorites. Donc voilà, Zao de Sagazan, et l'album s'appelle La Symphonie des Éclairs. Très beau titre d'ailleurs de l'album. Voilà.
Ouais, justement, je dis un tout petit mot. Moi, j'adore aussi Jean-Phi, et j'adore notamment pour la personnalité de Zao Tsagazan. Et écoutez justement la chanson titre de l'album et ce qu'elle dit elle-même de cette chanson. Pourquoi elle, voilà, ça c'est très joli. Fabien, une reconnage.
Bah écoute, ça pourrait être le pendant de ce qu'a raconté Jean-Phi. Je voulais commencer par recommander le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, mais tu en as fait référence en début d'émission et c'est un incontournable de la vulgarisation autour des sciences comportementales, il faut vraiment le lire. Mais alors, si on remplace le pote de Jean-Phi par Nicolas Mathieu, qui est un de mes auteurs favoris, que j'ai entendu dans un grand atelier de 2023, donc qui date pas d'aujourd'hui. Je l'ai entendu parce que j'aime bien l'entendre en interview, et il parlait, figurez-vous, alors ce serait ma Zao de Sagazan à moi, de Louis-Ferdinand Céline, parce que j'avais... et ouais, je sais. Mais alors, tout ce qu'on a dit sur le... Prenez ce qui a été dit sur Zao de Sagazan, je vais faire gagner du temps, et basculez-le sur Céline pour moi en littérature. C'est exactement ce qu'a dit Jean-Phi. Et du coup, moi, non, machin. Et voilà que Nicolas Mathieu dit, pour moi, c'est l'auteur par excellence. C'est le style par excellence. Vous savez ce qu'on dit sur Céline, machin. Donc, ça a été le nudge qui m'a fait ouvrir, lire et écouter. Et pourquoi je dis écouter ? Ouvrir, lire Le Voyage. Sauf que... Coïncidence, à ce moment-là, on a l'excellent Philippe Collin qui sort une nouvelle série de son podcast Face à l'Histoire, qui est sur Céline, justement, qui s'appelle Le Voyage sans retour, donc le portrait de Céline, l'histoire de Céline. Donc tout ça, ça s'est bien goupillé. Je vous fais une multi-reco.
Est-ce qu'on peut aimer un écrivain en oubliant quel homme il a été à un moment et en oubliant certains de ses livres ?
C'est une discussion très profonde parce qu'elle porte sur la morale. Un génie a des excuses, toujours.
Le plus grand écrivain du monde.
Je crois trop à l'influence de la littérature pour publier un salaud.
C'est Louis-Ferdinand Céline.
Ce qu'il a pu faire dans la vie, ça m'est égal. Il a trop de génie pour que je m'en occupe.
On est emporté par le littérateur et on est consterné par la bassesse du bonhomme.
Je sais pas si je vais vous inviter à aller lire le voyage au bout de la nuit, mais en tout cas commencez par Le Voyage sans retour qui est le podcast de Philippe Collin et bien sûr le dernier opus de Nicolas Mathieu, Le Ciel ouvert qui est à lire et qui est une compilation de posts Instagram, voilà.
Alors moi c'est un peu plus méta, hein. J'ai pas réussi à répondre à notre cahier des charges de dire je me suis fait nudger une petite reco, mais je suis tombé la semaine dernière je crois sur le film de Truman Show que j'avais vu il y a longtemps, c'est un film de Peter Weir de 98, j'ai appelé ma fille pour qu'on regarde, je fais un petit peu sa culture cinéma ces derniers temps, donc elle est venue avec moi et donc pour expliquer un petit peu, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais j'ai l'impression que c'est tellement culte qu'on en connaît tous au moins un peu l'histoire, ça raconte la vie de Truman Burbank qui est... vedette à son insu d'un spectacle de télé-réalité depuis sa naissance. Il vit dans une espèce de monde filmé tout le temps. Et toute sa vie, elle est guidée, elle est manipulée sous l'œil de ses caméras. J'ai bien dit à son insu, donc vous allez me dire, Régis, c'est pas du nudge. Mais moi, la question, je la voyais ailleurs en regardant ce film. Je me suis demandé, est-ce que la mise en scène, est-ce que le montage, l'art de la mise en scène, l'art du montage, serait pas du nudge émotionnel quelque part ? On a beau savoir... qu'on est guidé, piloté, manipulé en quelque sorte quand même par le réalisateur. Mais on le sait, on est quelque part consentant et qu'on s'est bien fait. Alors là, je parle de ciné, mais on peut penser la même chose de la musique. Hein. On se laisse quand même prendre par la magie des émotions et du cinéma. Voilà, c'était une petite réflexion autour de ça. Et au passage, Truman Show, c'est fou comme ça reste d'actualité. Il marche encore hyper bien. On pourrait croire que ça a vieilli, mais absolument pas. Donc si vous ne l'avez jamais vu, j'espère que je vous ai donné envie. Lancez-vous, ça vaut vraiment la peine.
Et Reg, c'est hyper intéressant ce que tu dis, enfin je suis désolé, mais en fait, figure-toi, je suis désolé, hein, tu pourras couper ça si jamais c'est pas intéressant, mais figure-toi que Vygotsky a commencé ses travaux sur la question de l'art, et justement sur la question de la forme et du contenu d'une œuvre d'art, notamment les livres, etc., et qu'il explique précisément que la forme, c'est une forme de manipulation de l'auteur pour faire ressentir aux gens, enfin tu vois, pour guider leurs émotions par rapport au support de contenu, tu vois. et que justement cette forme sert d'instrument pour boucler avec le fun fact.
Bim.
Pour justement construire les émotions du lecteur ou en tout cas de la personne qui reçoit l'œuvre d'art. Voilà, je ne pouvais pas m'empêcher avec ce que tu viens de dire de faire un lien avec ce que j'avais dit plus haut parce que ça me paraissait trop beau.
Ah ouais, bah merci pour le coup, pour ma connaissance, pour ma culture perso en plus. Et ben, nous on arrive au bout de cette émission, ce qui me fait lancer le petit générique pendant que je parle comme d'habitude. On se retrouve dans un mois les garçons pour une émission où on va se demander gentiment, mais pas tant que ça, mais gentiment un peu quand même, que faire avec les technopédagogues.
Oh yeah.
Oh yeah.
Mais d'ici là...
D'ici là, on garde la pêche.
Et surtout, on crache le noyau.
C'est quoi le prochain épisode ?
Que faire avec les technopédagogues ?
Ah ouais.
Oh putain, on les met tous à la poubelle.
Mais tu verras, c'est un peu plus nuancé que ça.
Ah bon ? Je suis surpris.
Ni oui, ni nudge. Et on apprend à finir des émissions.